France Inter, Laetitia Gaillet, le 6-9 de l'été.
À 8h40, c'est l'heure de la revue de presse avec Adrien Bonsard. Bonjour Adrien, ou rebonjour.
Rebonjour Laetitia.
Alors il est question de mise à l'écart ce matin dans les journaux.
Oui, par choix, par conviction, ou bien contraint et forcé. Le Monde nous apprend ce matin que les purges s'intensifient en Russie. Arrestations dans les hautes sphères de l'État, des administrations comme la Caisse des Retraites ou le ministère des Finances dans une région proche de la mer Caspienne. Des purges qui visent à maintenir une tension dans toute l'élite, un sentiment de terreur light, selon l'économiste Kirill Kogov. En clair, maintenir un système par la menace permanente. Et ce qui interroge, ce n'est pas tellement qui est arrêté, ni pour quelle raison, bien souvent pour corruption, mais par qui ces purges sont-elles déclenchées. Une lutte des pouvoirs intenses, où chacun se place, prouve qu'il a du poids en écartant ses ennemis, dans l'hypothèse, rappelle la République des Pyrénées, d'un départ de Vladimir Poutine en 2024. Mais avant cette échéance-là, il y a les élections locales, prévues en septembre, qui entraînent là aussi de nombreuses arrestations. Le Monde nous éclaire sur le climat de défiance à la veille du scrutin, des candidats étendards de la contestation qui se voyaient affronter le mois prochain les représentants du pouvoir se retrouvent aujourd'hui en prison. Mikhail Sevtov, derrière les barreaux. Andrei Navalny, derrière les barreaux. Vladimir Milov, derrière les barreaux. Sans doute, faut-il y voir une manière de museler l'opposition, mais qui ne fait en réalité qu'accentuer ce sentiment d'injustice et d'incompréhension. La crise n'en est qu'à ses débuts, estime la politiste russe Ekarina Shulman. Une nouvelle manifestation illégale est prévue aujourd'hui à Moscou, une semaine après celle très tendue dans les rues de la capitale. 14 000 personnes avaient été interpellées.
Des manifestations également aujourd'hui en France et qui promettent là aussi d'être tendues.
À Marseille, Paris, Amiens et bien sûr à Nantes pour rendre hommage à Steve Canizzo, tombé dans la Loire le soir de la fête de la musique. Un hommage sous tension, prédit Ouest France. Car il y a, oui, des craintes de débordement depuis que le corps du jeune homme a été retrouvé lundi soir, depuis que le rapport de l'IGPN a dédouané la police ce 21 juin. Des craintes justifiées par les nombreux groupes qui ont annoncé sur les réseaux sociaux leur volonté de semer la violence, écrit Laurent Marchand dans son édito. Un stock de haine même, peut-on lire sur lemonde.fr, engendré, selon beaucoup de jeunes nantais, par la police. L'image que j'en avais a changé, raconte Aurélie. Avant, j'étais la première à défendre les forces de l'ordre. Maintenant, je ne sais plus quoi penser, dit-elle, quand ses copains, eux, vont balancer tout ce qu'ils ont sur le cœur. Loi travail, Notre-Dame-des-Landes, gilets jaunes, il y a eu tellement de drames avant, raconte Baptiste, que cet après-midi risque bien d'être expiatoire. Oui, mieux vaut se tenir à l'écart du centre-ville nantais si l'on y va en famille. Et dans tout ça, il y a une famille, celle de Steve, qui ne cautionne pas les appels à la violence et s'en désolidarise. Elle se met en retrait, ne sera pas non plus des rassemblements, explique Libération. Son deuil commence, un deuil silencieux, à l'écart de l'agitation médiatique et politique. À des centaines de kilomètres de là, eux décident de ne plus se taire, d'exprimer enfin leur colère. Dans les Pyrénées, les éleveurs de brebis excédés par les attaques d'ours et de loups, nous raconte le Figaro. Ils manifesteront mardi prochain à Toulouse. La goutte de trop, c'est 311 brebis mortes en Ariège en juin et en juillet, tuées par des ours. Ils sont 54 dans les Pyrénées, 10 fois plus qu'il y a 20 ans, selon l'Office national de la chasse et de la faune sauvage. Une fois de plus, la question de la cohabitation des ours et des loups à proximité des fermes est posée. Que deviendraient les vallées si elles étaient toutes désertées, s'interrogent les élus, quand des bergers déprimés, eux, envisagent d'arrêter le métier si un plan ours n'est pas établi pour les emmener loin, très loin de toute activité humaine.
Et à l'écart de tout, Adrien Bossard, ou presque, le village de Cucherie dans la Marne.
Petit village de 400 habitants, des naufragés de la modernité, écrit l'Ardennais. Une zone blanche coincée entre les collines, ici pas ou peu d'internet. Chez Joël, on reçoit même la télé par satellite, le top du top des années 90. Et que dire du téléphone? Pour borner, il faut trouver le seul endroit de la maison où ça capte, y laisser son portable et ne plus le bouger de la journée. Un village hors du temps où les jeunes font du vélo dans la forêt. Oui, oui. Construisent des cabanes. De toute façon, Netflix ou les jeux vidéo en ligne, c'est pas la peine d'y penser. Un village où les gens se rencontrent. Je connais tout le monde, poursuit Joël. Avec internet, jamais ça ne serait arrivé. La France que René de Pardon en même temps, mais la déconnexion a ses limites dans un monde ultra connecté. Pour aller faire n'importe quelle démarche en ligne, il faut prendre sa voiture, tenter sa chance dans la commune voisine. La déconnexion finalement peut-être pas plus mal si ça ne dure pas trop longtemps. Pour les vacances par exemple, vacances spirituelles ce matin pour M, le magazine du Monde. Nous sommes sur les hauteurs alpines parmi des milliers de juifs orthodoxes. Les Alpes sont leur refuge estival. Il représente 20% de la population touristique totale sur l'Alpe d'Huez, réserve des hôtels entiers, des grands complexes habitués à leur venue. Toute la nourriture est cachère, les animations sont dédiées, un rabbin est même engagé pour la saison. Alors qu'est-ce qui pousse ces juifs orthodoxes de toute l'Europe à s'installer depuis des années sur les hauteurs alpines? Le Monde Magazine évoque deux raisons. La première nous renvoie dans le passé. Plusieurs stations ont recueilli des juifs considérés dans leur pays comme des parias pendant la Seconde Guerre mondiale. La seconde se base sur les fondements de la communauté, la pudeur, bien loin de la Côte d'Azur et de toutes ces femmes en bikini sur la plage.
Le bikini, le short de bain et la serviette, c'est dans beaucoup de vos valises aujourd'hui.
La route des vacances, classée noire par Bison Futé qui risque de vous agacer au volant. Le Parisien a la méthode pour rendre votre voyage plus agréable. Écoutez de la musique et chanter à plein poumon, ça défoule, ça détend, ça vous évite de passer vos nerfs sur votre partenaire, sur le siège d'à côté, et ça vous fait peut-être oublier la mauvaise nuit passée avec elle ou lui à cause des ronflements de monsieur ou de madame ou de ces retournements répétés dans le lit. Slet a peut-être la solution pour vous aider à mieux dormir. Faire chambre à part, ça règle tous les soucis que je viens de vous citer, et ça renforce votre couple s'il bat de l'aile à cause du sommeil. Deux lits, un couple plus épanoui, nous apprend le site internet. Les psychothérapeutes se succèdent pour évoquer les vertus de la chambre à part, moins d'engueulades le lendemain au réveil, une meilleure santé et une vie sexuelle plus intense, où quand se mettre à l'écart permet parfois de mieux se retrouver.
Ah oui, merci Adrien Bossard, il est 8h46.